victimes sont désignées ici, les assassins ici. En dehors de ça et de la date du crime, tout ce que nous avons, ce sont les images qu'ils produisent.
J'ai une police montée.
Pas du Capitole ?
Pas de système magnétique.
Le môle ?
Georgetown.
Les précoques voient un meurtre 4 jours avant. Quoi celui-là, c'est tard ?
On l'appelle boule rouge. Dans les crimes passionnels, il n'y a pas préméditation, on les découvre tard. Presque toutes nos urgences sont des cas spontanés comme celui-ci. Nous n'avons presque plus de préméditation dans les meurtres.
Les gens ont reçu le message ?
Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la justice en mutation, voire en disruption. Au début de l'année, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a annoncé un grand plan de réforme de la justice qui s'adosserait notamment sur le numérique. Cœur du réacteur, la possibilité pour le justiciable d'accéder directement à ses données. Derrière un sous-titre accrocheur et un peu provoquant, accepteriez-vous d'être jugé par des algorithmes ? Ils réfléchissent ensemble à ce que la révolution technologique fait à la justice dans justice digitale qui paraît au puf. Le magistrat Antoine Garapon, secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice, directeur de la rédaction de la revue Esprit, producteur sur France Culture de Matière à penser les jeudis à 22h15, auteur déjà de Bien juger, essai sur le rituel judiciaire et démocratie sous stress, les défis du terrorisme global. Bonjour Antoine Garapon.
Bonjour.
À vos côtés, l'épistémologue Jean Lassègue, chercheur au CNRS attaché à l'Institut Marcel Mauss. Ses travaux portent sur l'informatique comme étape dans l'histoire de l'écriture. Bonjour à vous Jean.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être à nos côtés. Alors un mot peut-être d'abord de la démarche pour cette enquête essai à quatre mains. Pourquoi cette question-là nécessitait une double approche complémentaire, celle du juriste et celle du fin connaisseur de l'histoire de l'informatique, de l'épistémologue? Pourquoi avoir choisi de travailler à deux ?
Elle préfigure de ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est-à-dire que le savoir juridique est très incomplet, il a été rendu par certains côtés obsolète, on en parlera, et si on ne mélange pas deux approches, eh bien on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Donc le pari de ce livre, ça a été de joindre à la fois un juriste et un praticien, quoi, qui fut praticien, et un épistémologue.
Vous avez donc cherché une langue commune, Jean Lassègue ?
Voilà, on a cherché une langue commune parce qu'on se trouvait confronté à des problèmes similaires. Et il y a un tiers terme dans ce dialogue, c'est quand même l'anthropologie. C'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir une attitude anthropologique, de prendre un peu de distance par rapport aux faits actuels. Et c'est la raison pour laquelle le livre qui s'appelle « Justice digitale » a aussi un sous-titre qui n'est pas exactement la phrase que vous mentionniez, qui est
le bandeau placé là par la maison d'édition.
Puisque le sous-titre, c'est « Révolution graphique et rupture anthropologique ». Voilà. Donc, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que l'informatique était une nouvelle étape dans l'histoire de l'écriture et que ça avait des conséquences anthropologiques et en particulier des conséquences majeures sur le droit.
Alors, la maison d'édition a choisi, accepteriez-vous d'être jugé par des algorithmes ? Et c'est une assez bonne question. Est-ce que vous accepteriez, vous, Antoine Garapon, pardon ? Est-ce que vous accepteriez ?
Certainement pas, mais...
Intéressant dans cette question, c'est qu'il y a tout de suite quand même un point de vue philosophique qui se glisse à l'intérieur et qui s'immisce dans cette question qui peut paraître à la fois trop judiciaire, à la fois trop informatique. On comprend qu'au-delà de tout ça, il y a une question éthique, philosophique qui va se poser à nous dans les prochaines années.
Mais oui, bien sûr, parce que l'informatique prétend organiser la coexistence humaine sans passer par les institutions et sans passer par le droit. Je vais faire la moyenne et je vais exploiter les données d'un certain type de contentieux et je vais dire quelle sera la prestation compensatoire. Par exemple, en matière de divorce, c'est très simple. Sur un portable, maintenant, on peut avoir des idées assez précises et pas farfelues de ce que décideront les juges. Et en même temps, bien évidemment, qu'il n'est pas acceptable d'être jugé par des algorithmes, mais toute la difficulté, c'est de décrire cette nouvelle prétention des algorithmes à se substituer aux institutions et de pas y répondre de manière catégorique, oui ou non, c'est plus compliqué que ça.
Et pourquoi pas ? On sait que dans la décision d'un magistrat, il y a souvent une part de subjectivité qui entre, donc on peut se dire aussi que les algorithmes nous protégeront de cela à l'avenir et rendront des décisions parfaitement juste, mathématiquement juste.
Alors c'est ce que vous dites, Olivia Gesbert, rejoint les propos de Laurent Alexandre, qui moi personnellement n'arrête pas de me faire réfléchir depuis que j'ai lu cet article dans les Échos il y a quelques mois, où il dit en quelque sorte, la justice va être mieux rendue par des algorithmes. Pourquoi ? Parce que les algorithmes n'ont pas de biais cognitifs. Ils sont pas hommes, femmes, ils sont pas jeunes, vieux, ils sont pas de gauche ou de droite, ils sont pas libéraux ou conservateurs. Ils regardent objectivement. Ils se laissent pas impressionner par ce qu'ils voient, et notamment par le visage des gens. C'est-à-dire, on va rendre une justice qui ne passera plus par la perception. Alors, c'est extrêmement dérangeant. Je reconnais que c'est une véritable question. Et là, et ce que ça pose derrière, et ça, il est vraiment très difficile d'y répondre, c'est comment est-ce qu'on peut justifier une justice rendue par des hommes lorsqu'on sait que les machines, dans certains aspects, sont plus performantes?
Alors, Laurent Alexandre, qui est quand même un des grands ou fervents défenseurs croyants de l'intelligence artificielle, auteur notamment de La défaite du cancer et de Google Démocratie. Un mot juste de la temporalité aussi de ces mutations. Est-ce que ce que vous dressez dans cet ouvrage, et on va y venir, c'est un scénario noir, voire un scénario d'anticipation très très proche, où c'est déjà, vous voyez déjà là réellement aujourd'hui les germes du grand changement qui serait en cours?
Alors,
Jean Lassègue.
Oui, alors pour ce qui est de l'anticipation, je voudrais d'abord faire remarquer que il y a toujours un effet d'annonce avec les débats en intelligence artificielle, parce que la figure rhétorique principale, c'est toujours la prolepse, c'est-à-dire ça va se passer comme ça dans le futur, donc croyez-y. Et donc faites en sorte que votre présent finalement se structure à partir de ce futur à venir. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette figure de l'anticipation, parce que on est toujours repoussé dans un avenir censé être meilleur. Donc, je crois qu'il faut faire très attention avec les anticipations, et il ne faut pas faire de l'algorithme une espèce de baguette magique. Les algorithmes, ça dépend d'hommes et de femmes qui les écrivent, et il n'y a aucune raison de croire que on va supprimer les biais parce que on fait appel à un algorithme. On a montré en particulier Cathy O'Neill dans un livre assez connu sur cette question, que il y a toutes sortes de biais qu'on peut mettre dans un algorithme. Donc il faut être au contraire très vigilant pour essayer de les modifier, pour faire en sorte que ces biais que l'on ne peut pas connaître au départ puisse être relativement limité. L'exemple qu'elle donne, c'est la liberté conditionnelle. Il se trouve que si on a utilisé aux États-Unis un certain nombre de logiciels pour aider les juges à prendre des décisions sur la liberté conditionnelle, et dans ces logiciels, on pose des questions aussi banales que les lieux de résidence des gens qui sont des prévenus, et aux États-Unis, qui est une société très ségrégée, demander le code postal, c'est immédiatement aussi faire appel à des différences sociales. Bon, donc évidemment que au bout du compte, en utilisant un algorithme, on va avoir tous les blancs qui sortent de prison et tous les noirs qui y restent. Donc on s'est très vite rendu compte que l'usage d'algorithmes n'est pas un usage qui serait parfaitement objectif en lui-même. Hein, ça demande à être corrigé en permanence.
Antoine Guérapon, vous qui n'êtes plus un magistrat pratiquant, mais qui n'en êtes pas pour autant un magistrat juriste hors sol.
Mais un magistrat croyant justice, croyant
fervent,
dans les institutions.
Fervent, totalement. Non, mais qu'est-ce qui est déjà réalité
alors,
aujourd'hui?
Ce qui est déjà réalité, c'est plusieurs choses. D'abord, en matière de preuves. Des capacités extraordinaires alors qui sont dues pas uniquement au numérique mais au croisement du numérique, de la génétique, de la neurodroit, ce qu'on appelle le neurodroit. Avec une goutte de sang, il est possible de reconstituer un visage, de donner un profil très précis sur un visage. Je trouve ça extrêmement intéressant. La difficulté, pour répondre à votre question, Olivia Gesbert, c'est d'éviter le piège. La technique va tout résoudre, et demain on aura une justice, c'est formidable, on aura un résultat très précis, ou d'avoir cette attitude à laquelle on assiste un petit peu de la part des professions juridiques aujourd'hui, on rejette tout en bloc, il faut toucher à rien. Et la question qu'on s'est posée avec Jean Lassègue, c'est d'essayer de savoir comment est-ce qu'on peut échapper à cette fausse alternative entre tout rejeter ou tout accepter. Et notre réponse, c'est de dire accueillons ce qui se passe, accueillons ce que la technique peut apporter au procès, à une condition. à la condition que le procès se termine par une discussion humaine, par une réflexion sur l'apport de ces preuves entre des juristes, des techniciens et des juristes, c'est pas, mais certainement pas un résultat direct de la technique, certainement pas une discussion exclusivement technicienne entre experts, entre ingénieurs.
Et ça, c'est menacé aujourd'hui ?
Oui, ça peut être menacé parce que la technique flatte quelque chose qui est très contemporain. Elle flatte ce qu'on pourrait appeler le confort. C'est-à-dire, elle flatte le désir d'une vie accélérée, d'une vie intensifiée, d'une vie où on pourra divorcer en trois clics. Mais le problème, c'est que la rupture d'une union, la rupture d'un couple, c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps. C'est quelque chose qui mobilise les passions humaines. Comme le disait un ami avocat, excusez-moi d'être un peu vulgaire, il dit le problème d'un divorce, c'est pas uniquement de dissoudre la communauté, d'attribuer la garde. C'est que souvent, il y a au moins l'une des parties a envie de faire chier son ex. Et donc, c'est ça c'est ça les passions humaines. Et la justice, elle doit apaiser ces passions. Elle les apaise par le droit, par le rite, par de la mise à distance. Tout ce que ne peut pas faire la technique.
Jean Lassègue.
Oui, je voulais faire remarquer qu'on vit dans une société où l'imaginaire que l'on a est un imaginaire lié à la délégation aux machines. Et depuis très longtemps déjà. Et ça, c'est quelque chose d'abord qui n'est pas universel. Et il faut s'en méfier d'un certain côté. C'est-à-dire que la délégation aux machines, c'est tout à fait jouable, intéressant. Il n'empêche, c'est une forme sociale. Et donc, il n'y a aucune raison de croire que l'objectivité, finalement, serait intégralement liée à cette façon de procéder.
Et est-ce que les machines déshumanisent forcément, automatiquement, les relations et les pratiques ?
Alors là aussi, ça dépend. C'est-à-dire que elles peuvent déshumaniser, mais elles peuvent aussi se réintégrer à la vie elle-même. Hein. Aujourd'hui, ça ne pose pas de problème d'avoir une partie de sa sociabilité qui passe par les réseaux sociaux. On s'en sort très bien. Hein. Mais c'est réintégrer, redigérer dans un ensemble qui est évidemment un ensemble de relations humaines.
Antoine Garapon.
Vous savez, je prends l'exemple de l'audience. L'audience, c'est un enjeu de procédure, c'est une cérémonie de parole, mais on partage un espace commun. Et c'est très important. Ça veut dire que, eh bien, souvent on dit l'ambiance est lourde, il fait chaud, c'est tendu. C'est tendu parce que la victime ou ses proches sont face à celui qui a causé leur malheur, au criminel. Et à partir du moment où le numérique permet de banaliser la visioconférence. Ça change beaucoup de choses. Je dis pas que ça change tout, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui est dans une prison à Palerme, qui est confronté à quelqu'un qui est dans une prison à Chicago. Ils n'éprouvent pas le sentiment d'obligation que fait naître la coprésence avec autrui. Et puis il y a un stade supérieur, c'est quand on peut tweeter pendant l'audience, et le cas s'est produit. Un substitut sous le bureau tweet avec son copain qui est assesseur et il commente des témoignages. Là, c'est beaucoup plus grave parce que là, il fausse la procédure, il fausse le jeu du droit.
C'est-à-dire qu'il rend public aussi une audience qui ne l'est pas forcément ou il transmet des informations.
Non, il transmet des informations entre eux en disant t'as vu ce témoin, il est franc comme un âne qui recule, etc. Et on est dans une salle d'audience. Alors c'est une affaire de Montauban, elle est très connue, hein, et le Conseil supérieur de la magistrature y a mis fin en sanctionnant. Donc c'est une affaire qui est passée, qui est publique, mais qui est extrêmement révélatrice qu'il n'y a plus un espace partagé, il y a une superposition d'espace entre l'espace de communication et un espace qui est, ben justement, qui n'est plus un espace, qui est le graphique, qui est celui des tweets.
Alors d'un côté, on a la garde des Sceaux qui nous explique que la révolution, la transformation de la justice ne se fera pas aujourd'hui sans transformation numérique. De l'autre, et vous ouvrez sur ce constat, nombre de juristes qui ressentent l'impression, je vous cite, confuse, que la révolution numérique remet fondamentalement en cause tout ce qu'ils ont appris, leur identité professionnelle, et pire, la légitimité même du droit. droit. Donc on sent là effectivement déjà un écart, un fossé qui est en train de se creuser. Et puis peut-être aussi le ressenti du justiciable face à tout cela. On accuse souvent la justice d'être trop lente, trop lourde. Alors est-ce que les vertus de cette révolution numérique ne peuvent pas être aussi de faciliter les procédures d'un côté pour le justiciable et d'alléger les professionnels de l'autre dans le poids de ce qu'ils ont apporté aujourd'hui? Jean Lassaigue, Antoine Garapon.
Oui, absolument. Je crois que c'est Antoine le faisait déjà remarquer tout à l'heure. C'est-à-dire que il s'agit pas de nier en bloc les intérêts que peuvent avoir de développer des logiciels ayant rapport au droit. Je crois que ce que vous indiquez, cette espèce de blues de la profession, hein, il vient du fait que le texte de la loi avait une autorité. Et c'est ça qui est remis en question aujourd'hui, puisque les logiciels, ça n'est pas du texte. C'est du graphique, mais ça n'est pas du texte. Et donc, évidemment, ça pose toutes sortes de questions, puisque quand on dit « nul n'est censé ignorer la loi », c'est qu'on présuppose que tout le monde est capable de la lire. Or, aujourd'hui, personne ne lit un logiciel à proprement parler. Ça n'est pas le même acte de lecture. Donc il y a là quelque chose de très profond qui est en train de faire bouger les lignes et qui pose évidemment problème aux professionnels.
Elle est là, cette rupture anthropologique que vous évoquez, fondamentale, dans oui. cette révolution graphique.
Exactement, elle est là. C'est-à-dire que nous sommes devenus des analphabètes, d'un certain côté, puisque nous ne lisons pas les codes, hein, et que nous devons faire confiance à des tiers, appelés informaticiens, pour à la fois les écrire et les lire pour nous. Donc il y a là quelque chose qui implique une perte de contrôle, et qui est effectivement extrêmement difficile à gérer.
Antoine Garapon.
Il y a un grand juge américain qui a beaucoup marqué l'histoire du droit, qui s'appelait le juge Oliver Holmes, qui a dit en 1920, pour moi le droit, c'est ce que disent les juges, point barre. Et il a créé le mouvement qu'on appelle du réalisme américain. Alors, si on le suit, il a très largement raison. Si on le suit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le droit, c'est ce que disent les juges, eh bien, ce que disent les juges, c'est pas d'autres juges qui le savent, c'est pas des profs de droit, c'est pas le code, non, c'est des informaticiens qui vont nous dire ce que disent les juges, c'est cela. Et on le sait parce que on a fait mouliner nos machines extrêmement puissantes. Ça veut dire que la jurisprudence, l'ensemble des décisions de justice n'est plus un bien commun directement accessible à tous, à tous les citoyens, que cette jurisprudence, eh bien, c'est un bien commun qui doit passer par des mains privées, qui doit passer par des start-up, qui doit passer par la legal tech, c'est comme ça qu'on appelle les start-up, qui répondent aux lois du marché, qui sont capitalisées, etc., par des banques étrangères. Bon, bref, on n'est plus tout à fait dans la même démocratie.
Il y a un changement, dites-vous, l'un et l'autre, de la production de sens, et on aimerait bien comprendre en quoi cette révolution graphique et symbolique va changer aussi nos représentations du monde.
Mais parce que
Jean Lassaigue.
Parce que j'ai l'impression que quand on a affaire à des codes qui sont illisibles, il s'agit ensuite de pouvoir les faire parler. C'est ce que Antoine faisait remarquer à l'instant. Donc faire parler des codes, ça implique une nouvelle forme sociale. Il se trouve qu'on dépend à partir de ce moment-là des informaticiens, de ceux qui ont écrit tel code, et tout ça évidemment demande une nouvelle organisation. Et donc, comme ça demande une nouvelle organisation sociale, ça produit aussi une nouvelle forme de sens. Et donc, c'est ça qui est en jeu en ce moment dans la justice et ailleurs, mais tout particulièrement dans le cas du droit, qui est au cœur même des relations sociales.
Donc avant c'était le code pénal, le code civil qu'on tentait de faire parler. Aujourd'hui, Antoine Garapon, ce sont ces codes qu'il va falloir interpréter.
Et la révolution est majeure. Vous savez, le code Napoléon, l'idée de Napoléon qui a bouleversé le droit et qui a bouleversé l'Europe d'ailleurs, ça a été de dire j'écris la coutume, je synthétise le droit dans des formules claires que tout le monde va pouvoir comprendre dans un petit livre qui s'appelle le code civil, puis ensuite le code pénal. Même chose pour la constitution. C'est-à-dire que on repose sur l'idée que nous sommes des citoyens lecteurs, capables de lire, capables de comprendre, de partager cet acte essentiel de la démocratie, tellement essentiel qu'on l'avait oublié. Et aujourd'hui, on découvre eh bien, que ça, à partir du moment où il y a une nouvelle écriture qui prétend être plus exacte que l'ancienne, qui prétend être plus juste, Parce qu'il y a une théorie de la justice derrière. C'est aussi ce qu'on a découvert en travaillant sur la justice digitale. C'est quoi cette théorie de la justice? C'est que le numérique, que ça soit d'ailleurs le Internet ou la blockchain, c'est ce que les Anglais appellent ça les matchmakers. On va faire en sorte que chacun correspondre à chacun, qu'on puisse rémunérer au plus justement, de la manière avec la plus de justesse et non pas de justice, le travail, que la collaboration de quelqu'un, etc. Et donc cette prétention, parce que il y a un projet de société derrière le numérique, qui est porté par des libertariens américains qui pensent à finalement se libérer de la tutelle de l'État, ce qu'on ne peut pas rejeter immédiatement. Il y a de véritables réalisations démocratiques, mais je crois que elle présente beaucoup de biais qu'on a essayé d'identifier.
Et à vous lire, cette confrontation dans cette révolution ne pourra pas se faire sans une forme de violence, même symbolique. C'est-à-dire que là où on pensait pouvoir réunir le droit et le numérique, là où on imaginait que ces deux disciplines, ces deux matières à penser, Antoine Garapon, allaient pouvoir se compléter et s'épauler pour se transformer en positif, vous y voyez comme un théâtre d'affrontement, un théâtre des opérations à l'avenir. Pourquoi la cohabitation ou la transformation ne peut pas se faire dans la douceur, Jean Lassaigue?
Alors, c'est effectivement, on peut rêver d'une espèce de lieu où le droit et le numérique pourraient se compléter. C'est une vieille histoire qui date du projet de Leibniz, qui date de 1666 et d'un texte de jeunesse de Leibniz, où il disait qu'effectivement on pourrait faire un calcul sûr des décisions juridiques, qui permettrait d'avoir une justice parfaitement objective. Bien. C'est aussi un projet qu'il a abandonné. Et c'est sans doute pas un hasard qu'à la fois les tenants de l'intelligence artificielle reviennent à ce texte en disant « voilà, il y a un vieux projet en Occident à ce sujet », mais ils oublient aussi de dire que c'est un projet qui a échoué d'un certain côté, ou au moins qui s'est transformé. Et pourquoi donc cette violence dont vous parlez? C'est précisément le fait que, anthropologiquement, on perd ses repères quand on n'est pas capable de lire le texte de la loi, quand on ne sait pas exactement à quoi on a affaire quand on utilise un logiciel, donc quand il y a une espèce de perte de contrôle. Donc, il y a à la fois l'idée que la justice digitale va permettre un ajustement généralisé, c'est ce dont parlait Antoine à l'instant, réussir à faire en sorte que la loi s'adapte au cas par cas, de façon bien meilleure qu'autrefois. Et puis, il y a cette idée, en même temps, qu'il y a une désymbolisation, une perte de repère, qui fait que on ne peut plus parler ensemble de la même manière.
Nos invités, le magistrat Antoine Garapon et l'épistémologue Jean Lassaigue, ils sont tous les deux les auteurs de Justice Digitale qui paraît au PUF, et ils sont avec nous jusqu'à 13h30.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesper.
L'écriture numérique inaugure une nouvelle relation entre les citoyens et le pouvoir. Écrivez-vous tous les deux. Révolution symbolique, révolution graphique et révolution politique. Pour ouvrir cette dernière partie de notre discussion, je vous propose d'écouter les mots d'Andrew Feinberg, le philosophe, auteur d'une théorie critique de la technique. Il décrivait récemment autour de cette grande table comment la technique n'est pas une instance qui évolue par elle-même de manière autonome, mais qu'elle est au contraire déterminée par des choix politiques.
Je pense que la technique n'est pas autonome. Là, j'ai une opinion qui est évidemment contestée par beaucoup de gens. Je pense que la technique fait partie de la société comme d'autres institutions, comme les écoles ou les églises, la famille, toutes ces institutions sociales font partie de la société et ils sont influencés par l'opinion, par l'ambiance politique, par la réglementation. Et l'Internet fait partie de cette structure sociale. Ouais. Oui. Et donc, on ne peut pas dire que ce qui se passe actuellement, par exemple avec la disparition de la neutralité du net, c'est inscrit dans la destinée technologique. C'est pas ça, c'est inscrit dans la destinée politique. Mais cette destinée politique, on peut la contester.
Alors, qui a fait ce choix politique, pour poser la question simplement? Antoine Garapon, Jean Lassaigue?
Personne n'a fait ce choix politique.
c'est ça
le problème, évidemment. Je suis tout à fait d'accord avec Andrew Friedmerck sur ce point. C'est sûr que la technique est une institution sociale. Maintenant, contrairement à la politique, on n'en décide pas. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que, prenons un exemple que tout le monde connaît bien, on nous présentait comme une simple possibilité le fait de payer ses impôts par Internet, et puis maintenant on est obligé de le faire. Donc c'est ça l'espèce de contrainte qu'impose cette nouvelle forme. Donc il y en a évidemment de toutes sortes, mais on voit bien qu'il faut... qu'on reprenne politiquement le contrôle de cette technique, et en particulier dans le droit, il faut qu'on décide à quel moment les logiciels peuvent être utilisés, à quel moment ils ne doivent pas l'être.
C'est-à-dire qu'avec le numérique, on a le sentiment qu'on va pouvoir se passer de l'État, comme vous l'évoquiez, Antoine Garapon, qu'on va en tout cas pouvoir se passer d'un tiers arbitre aussi, d'un tiers médiateur public. En réalité, c'est un leurre. On est en train de procéder inconsciemment à un vaste transfert des prérogatives vers aussi des acteurs privés.
Oui, il y a deux éléments de réponse. C'est-à-dire que le numérique réalise ce que un philosophe américain appelle la démocratie des groupes. C'est-à-dire au niveau micro, par la plateforme, on peut communiquer très vite, on peut s'expliquer ou échanger des messages, et on peut notamment en matière juridique régler, apaiser des conflits. Donc il y a une augmentation de la démocratie au niveau micro. Mmh. Mais ce qu'on constate également, c'est concomitant et c'est lié, c'est une augmentation massive des inégalités au niveau macro. C'est-à-dire que le paradoxe, et par exemple dans la justice on le voit bien, quand on dit, je prends une hypothèse, l'indemnisation, 60% des tribunaux français disent l'indemnisation pour telle chose c'est 10 000 euros. Eh bien, les gens qui vont bénéficier de cette information donnée par la Legal Tech vont dire on négocie sur cette base. 3 ans après, ça sera plus 60%, ça sera devenu la règle, 100%. Et ça veut dire que on n'aura pas, à la fois, on a le sentiment de maîtriser son affaire, de maîtriser plus son destin individuel, parce qu'on peut négocier directement, parfait, et en même temps, le sentiment d'un destin collectif qu'on ne peut plus bouger, on est tous dans un paquebot que plus personne ne gouverne, et ça, c'est directement lié à l'informatique.
Ce que vous dites aussi, et ce qui vaut pour l'ouverture des données, Jean Lassaigue, est quand même un point très important de cette réflexion. Hein.
Oui, c'est un point très important. Pour aller dans le sens de ce que disait Antoine à l'instant, je crois que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que la distinction entre le droit et le fait n'est plus pensée comme avant. Pourquoi ? Parce que par l'intervention de données statistiques, finalement, à côté de la loi, on voit qu'il y a des régularités très générales, et c'est sur ces généralités-là qu'on va se baser pour produire du droit. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau. C'est le fait que, grâce à l'informatique, on utilise des données statistiques massives qui disent quelque chose d'un peu différent du droit, et c'est sur ces données-là donc qu'on va baser son jugement. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui se produit et qui transforme toute la sphère juridique. Alors évidemment, les bases de données dont vous parliez à l'instant sont capitales là-dessus, hein, puisque plus on a des bases de données et plus on peut faire ce genre de raisonnement où la statistique entre en jeu de façon massive. Tout en sachant quand même que les bases de données, c'est très difficile à construire. Pourquoi ? Parce qu'une base de données qui a une base trop étroite, finalement, ne permet pas de tirer des raisonnements généraux, et une base de données trop large permet de dire à peu près n'importe quoi. Donc tout ça demande un ajustement constant, hein, qui est le fait des techniciens, mais pas simplement des techniciens à mon avis, mais aussi des juristes, et on ne peut pas simplement déléguer ça à la machine.
Et vous l'écrivez, on va aussi vers un brouillage quand même des frontières entre le public et le privé. Vous avez cette formule qui en dit long: avec le numérique, le privé n'est plus l'envers du public, pas plus chose que son contraire, mais une étape indispensable à sa réalisation. Est-ce que l'étape supplémentaire, c'est une marchandisation de ce bien commun aussi qu'est la justice ?
C'est tout à fait le risque, mais pour être positif, je dirais le grand mouvement, c'est que le numérique déplace le centre de gravité de nos démocraties devant nous. C'est-à-dire que on a des possibilités extraordinaires qui peuvent donner le meilleur comme le pire. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et en tant que juriste, je dirais, ce qui est pour moi quelque chose d'essentiel, c'est l'égalité des parties devant un tiers de justice. L'égalité des parties. Or, puisque il y a un moment privé dans le bien public, ça veut dire que par exemple aujourd'hui, les banques vont être capables de se payer entre guillemets de mobiliser des données numériques dans des proportions vertigineuses, ce que ne pourront pas faire ses clients. Donc, la question qui nous est posée à la justice et à notre démocratie, à toutes les démocraties, c'est comment on réinstaure secondairement de l'égalité, de la transparence, du contrôle de ceux qui font les algorithmes pour réintroduire des grands principes qui font notre démocratie. Et c'est pas d'ailleurs très simple. C'est pas très simple, c'est une très grande résistance d'une partie de la profession numérique disant faites-nous confiance. On entend ça de la part des GAFA tous les jours. Faites-nous confiance. Le droit à l'oubli, on va l'assurer, l'égalité, on va l'assurer, le bonheur éternel, on va l'assurer. Remettez-vous-en à nous.
Oui, mais on dit aussi que tout ça va peut-être permettre de redonner plus de pouvoir, un pouvoir d'agir aux citoyens, alors que jusqu'ici, c'était les professionnels du droit et à toutes les étapes de la procédure qui avaient une sorte de précaré. On devait en passer par eux. Ils étaient les seuls à pouvoir nous expliquer et à traduire ce qui était en train de se jouer au niveau judiciaire. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de remettre une sorte de proximité entre cette institution qu'est la justice et le citoyen, et surtout de lui redonner de la marge de manœuvre, Jean Lassaigue.
Oui, très certainement. Ça, c'est un des bénéfices qu'on peut attendre de l'informatique appliquée au droit. Hein. Très certainement, le fait que les justiciables ont accès beaucoup plus facilement qu'avant à de l'information juridique, et donc ils n'ont pas à s'en remettre de ce point de vue-là, à des avocats ou à d'autres tiers de justice. La question, c'est quand même que ça déplace donc la compétence des tiers de justice, hein, ça ne le supprime pas. Et croire que on va réussir par une espèce d'ajustement généralisé, mécanisé, à se passer de ces médiations, est sûrement un leurre. Hein, parce que finalement, il faut pouvoir se retrouver, réussir à parler, réussir à montrer que il y a plusieurs points de vue sur une même question. Donc, il y a tout un travail d'ordre herméneutique à faire, qui était le cœur même du procès. Hein. Le fait, par exemple, qu'on puisse avoir une procédure d'appel, ça veut dire que, à partir des mêmes données, on va produire un autre jugement. Mais on voit bien que, dans le cas d'un logiciel, si on lui donne les mêmes données, il va produire le même résultat. Il a même été conçu pour ça. Donc, qu'est-ce que ce serait qu'une justice sans appel, puisque c'est finalement ça qui se profile. Alors évidemment, on peut dire, il faudrait utiliser plusieurs logiciels, ce genre de choses. Donc c'est pas impossible, mais toujours est-il qu'il faut réfléchir à cette question-là, réfléchir collectivement, évidemment.
Oui, et arrêter de se laisser séduire aveuglément aussi par cette nouvelle mythologie. Vous actez l'un et l'autre notre fascination contemporaine pour l'informatique, comme si la perte des valeurs dont souffriraient nos sociétés pouvait être entièrement compensée par ce nouvel outil et par l'élaboration de ces nouveaux savoirs. Une très courte réponse, Antoine Garapon, est-ce que le nouveau palais de justice de Paris est déjà équipé pour cette nouvelle époque ? Est-ce qu'il est à l'image de ce qu'on nous prépare ?
Il est déjà équipé pour cette nouvelle époque. Il a prévu tous les emplacements pour les tuyaux, pour l'informatique. Il n'y a qu'une seule hypothèse qu'il n'a pas envisagée, c'est l'obsolescence judiciaire. C'est peut-être que la justice demain se fera en dehors des tribunaux.
Un grand merci à tous les deux. Justice digitale, Antoine Garapon, Jean Lassaigue, votre enquête-essai vient de paraître aux éditions PUF. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Claire Maillot et Clémence Marie, à Maxime Morin et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse chanteuse de Liana Valken et de Émile Boutelier. À la réalisation aujourd'hui, Perry Legras avec Jean Guilhemège. Je vous souhaite un très bel après-midi sur France Culture et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une dernière semaine de la saison, une dernière semaine de Grande Table. On aura plaisir à vous y retrouver dès lundi à midi.